franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia et bonjour à tous. Il y a la guerre au Soudan. Au Soudan du Sud, la guerre civile depuis 2 ans, mais on n'en parle quasiment pas. Plus de 50 000 morts, mais on n'en parle quasiment pas. Plus d'1,5 million de personnes déplacées, mais on n'en parle quasiment pas. C'est une guerre oubliée, comme le titre Lacroix dans son édition du week-end. À l'origine des violences, la lutte sans merci à laquelle se livrent les partisans de l'actuel président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar. Une lutte pour le pouvoir qui a dégénéré rapidement en conflit ethnique. D'un côté, les Dinka, l'ethnie de Salva Kiir, et de l'autre, les Nuer, l'ethnie de Riek Machar. Et le conflit a sombré dans le crime de masse, chasse à l'homme, viol de femmes et villages rasés. Une guerre impitoyable, loin des caméras, que nous explique Laurent Larcher à travers les récits et les témoignages qu'il a recueillis dans le camp de Bientou, camp protégé par les casques bleus de l'ONU, où s'entassent environ 120 000 réfugiés, protégés donc par les casques bleus, et tous racontent les mêmes histoires, des histoires de carnage et de familles décimées, et tous tentent de survivre au milieu de ce camp tentaculaire, fait de huttes et géré sans grands moyens par les ONG internationales. Maladies, malnutrition, paludisme et moustiques provoquent chaque semaine des dizaines de nouveaux décès dans le camp, comme partout ailleurs. Le Soudan du Sud connaît aujourd'hui l'une des pires situations humanitaires du monde. Et l'accord de paix signé l'été dernier par les deux clans rivaux n'a pas encore permis de clarifier la situation, ni surtout de la pacifier. L'heure est toujours à la guerre civile depuis 2 ans, mais on n'en parle quasiment pas.
Une guerre oubliée au Soudan et dans le même temps au Burundi, s'écrit actuellement la chronique d'un massacre annoncé.
C'est le titre de l'éclairant reportage que signe Natacha Tatu dans les colonnes de l'Obs. Éclairant, car il nous dit tout de ce qui se déroule en ce moment dans ce petit pays qui jouxte le Rwanda. Au départ, là encore, comme au Soudan du Sud, une lutte de pouvoir, un mouvement de contestation contre la volonté du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Mais le poison ethnique, comme au Soudan du Sud, a refait surface insidieusement, ici Hutu contre Tutsi. Et c'est l'ombre du génocide rwandais qui plane désormais sur le Burundi. 8 mois que le pays s'enfonce dans la terreur, arrestations, tortures, enlèvements et exécutions. Dans les campagnes, des miliciens promettent de lessiver, brandissant gourdins et machettes avec force champ guerrier. Quant au pouvoir, paranoïaque, il manipule et il s'enferme dans la spirale répressive. Pour chaque policier tué, 200 jeunes massacrés. On ne compte plus les fosses communes et nombreux sont les Burundais qui prient dorénavant pour une intervention internationale. Seul moyen, d'après eux, d'arrêter le bain de sang, d'éviter que l'histoire bégaye, d'empêcher le génocide. Lire également sur le sujet l'analyse du chercheur Gérard Prunier dans Le Monde diplomatique. À ses yeux, ce n'est pas seulement le Burundi, mais toute l'Afrique centrale qui pourrait bientôt s'embraser. Une guerre oubliée, une guerre annoncée, une autre qui n'en finit pas. Dans le journal du dimanche, Antoine Malot décrit le sentiment de panique qui a gagné ces derniers jours la région d'Alep en Syrie, une ville qui, depuis 3 ans, était tenue par les rebelles au régime de Bachar al-Assad. Elle en était même le symbole de la résistance. Mais mercredi, l'armée syrienne, avec l'aide de l'aviation russe notamment, est parvenue à reprendre l'avantage et la ville désormais est menacée d'encerclement. 150 000 à 200 000 personnes y vivent encore, 150 000 à 200 000 habitants qui pourraient donc se retrouver assiégés. Conséquence, des milliers de civils fuient depuis 3 jours le secteur par peur, tout à la fois des bombardements russes et des éventuelles représailles des miliciens pro-Bachar. Ils fuient vers la Turquie, mais les frontières sont fermées et les camps de réfugiés sont déjà surchargés. Et la prochaine fois que quelqu'un vous demande pourquoi les réfugiés syriens risquent tout, même leur vie, pour venir en Europe, montrez-lui ceci.
Oui, cette phrase, on peut la lire sur la page Facebook du journal The Independent.
Le quotidien britannique qui publie sur son site une vidéo sidérante, un survol par un drone de la ville de Homs. Survol réalisé par la chaîne Russia Works, une vidéo de propagande afin de promouvoir l'intervention russe en Syrie. Mais au-delà de l'aspect propagande, elle rappelle surtout l'ampleur des dévastations de cette guerre qui dure depuis maintenant 5 ans. Bastion du soulèvement contre le régime de Bachar al-Assad, Homs était la 3e ville du pays et comptait avant 2012 près d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, ne reste que des ruines, paysages dévastés. La vidéo est à voir sur le site Rue 89. Il y a les images, il y a aussi les mots. Les mots des journalistes encore présents en Syrie qui témoignent pour résister. L'hebdomadaire Gradia a rencontré des femmes, anciennes infirmières, enseignantes, étudiantes, qui ont décidé de se transformer en journaliste pour raconter les exactions commises dans le pays et tenter de mettre au jour les mensonges du dictateur syrien. Être journaliste en Syrie est vraisemblablement devenu le métier le plus dangereux du monde aujourd'hui. Près de 300 sont morts depuis le début du conflit et des centaines d'autres sont portés disparus. Mais ces femmes-là résistent donc anonymes pour la plupart, malgré les menaces et les persécutions. Il reste encore des dizaines de journaux dans le pays. Des journaux d'information, des magazines féminins, des revues pour enfants. Il reste aussi quelques radios qui émettent sur Internet. Témoignage d'une prof de maths qui anime aujourd'hui l'émission « Une assiette de liberté ». À mes auditeurs, raconte-t-elle, j'apprends à faire des baklava avec des pâtes, des bougies avec de l'huile ou des sacs de couchage pour les enfants avec du papier bulle et du plastique.
Et en France, où sont les femmes ?
Où sont les femmes ?
Où sont les femmes ? Vous voulez que je chante ?
C'est la question que pose Assaline Le Parisien. Où sont les femmes en politique ? Depuis le départ de Christiane Taubira, tous les postes clés du gouvernement sont occupés par des hommes. Preuve, selon le journal, que la parité s'arrête aux portes du pouvoir. Rien de nouveau, à vrai dire, mais parfois, il faut le redire, la politique française est un monde de machos où les ministres femmes sont la plupart du temps cantonnés au rôle de maman, la santé, le social ou bien encore l'environnement. Du sexisme à tous les étages. Valérie Pécresse se souvient de cette remarque lâchée par un de ses collègues du parti Les Républicains quand elle fut désignée chef de file pour les régionales. On ne va quand même pas laisser une nana tête de liste. Ça y est, consternante également d'Henri Guénaud, en apprenant que Valérie Calmels allait conduire la liste de la droite en Aquitaine. On ne peut quand même pas mettre Loana à une élection. L'ancienne secrétaire d'État Noël Lenoir se souvient pour sa part de cette réflexion de son ministre de tutelle Dominique de Villepin, lequel, pour justifier de ne pas la convier à une réunion, avait lancé « Le QI requis est au-dessus de ton niveau ». Soupçon d'incompétence, soupçon permanent et dans le microcosme médiatico-politique, on épingle toujours plus facilement les bourdes des femmes politiques que celles de leurs collègues masculins. Et lorsqu'elles s'emportent ou font preuve de franc-parler, la tendance est de les dire hystériques ou bien carrément folles. Il n'empêche, François Hollande est face à un problème aujourd'hui. Car donc, depuis le départ de Christiane Taubira et celui annoncé de Sylvia Pinel, il lui faut trouver des femmes pour respecter la parité gouvernementale à laquelle il s'est engagé, remaniement en vue peut-être dès la semaine prochaine. Et d'après le JDD, l'hypothèse de l'arrivée de Ségolène Royal en remplacement de Laurent Fabius au Quai d'Orsay se précise et à la place de Royal. Il faudrait, nous dit-on, une écologiste, mais tout cela n'est pas encore fait. D'ailleurs, en ce moment, rien n'est fait, rien n'avance, estime l'hebdomadaire qui offre ce titre à sa une, la France bloqué, un conflit agricole qui s'enlise et le feuilleton sans fin des taxis VTC, sans parler du débat sur la déchéance de nationalité dans le journal. François Fillon appelle clairement à voter non à la réforme défendue par le chef de l'État et il invite les parlementaires de droite à suivre son exemple. François Fillon qui, dans Le Monde, reçoit d'ailleurs le soutien d'un sarkozyste historique, en l'occurrence le député Thierry Mariani, lequel estime que pour la primaire à droite, l'ancien Premier ministre est le candidat qui a aujourd'hui le mieux travaillé son programme.
La presse revient aussi, Frédéric, sur la victoire du 15 tricolore hier en ouverture du tournoi des 6 nations.
23-21 devant l'Italie, la France a tremblé, résume Midi Libre. La France a eu chaud, confirme Nice Matin. Aucun bravo dans les journaux, juste un grand ouf de soulagement. Ouf, le mot barre la une de Sud-Ouest. Première bataille remportée, mais une bataille, ce n'est pas la guerre. Et puis tiens, à propos de bataille, François Bayrou a décidé de mener la sienne également. Sa bataille de l'orthographe, il s'oppose vigoureusement à la réforme qui a créé la polémique cette semaine et il signe une assez jolie tribune dans le journal du dimanche. Il dit que la langue nous appartient à tous les amoureux du français. Et il n'est pas né celui qui m'obligera à écrire combatif avec deux T. J'ai bien l'intention au contraire de demeurer contre ces cuistres combatifs à ma manière et à continuer mon persiflage avec un seul F et quand je grelotterai à le faire avec deux T ou à aimer les corolles avec deux L. Il y aura cependant des conséquences, dit-il. Il y aura ceux qui sauront, ceux qui se reconnaîtront au circonflexe ou au trait d'union. Autrement dit, une orthographe pour les uns, les initiés, et une orthographe pour les autres, une discrimination de plus. La guerre de l'accent circonflexe n'en est visiblement qu'à ses débuts, Patricia.
Oui, par exemple.
Ah, vous vouliez que je vous parle de ce qui circule sur les réseaux sociaux.
Oui.
Après les fêtes, je me ferai bien un petit jeûne. On enlève l'accent circonflexe. Après les fêtes, je me ferai bien un petit jeûne. Ça n'a plus du tout le même sens.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.